Radio Okapi.
Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation de votre journal.
Lancement officiel hier à Goma au Nord Kivu de la campagne de vaccination contre la variole de singe. Les activités de vaccination proprement dites se dérouleront du lundi 7 au jeudi 10 octobre. 48 000 personnes sont ciblées pour la première phase de cette vaccination qui voudrait ainsi rompre avec la chaîne de transmission de monkeypox. La vaccination concerne d'abord trois zones de santé les plus touchées de la province, Goma, Karisimbi et Nyiragongo. Entérinement hier par la plénière de l'Assemblée nationale des groupes parlementaires ainsi que la répartition des postes et des bureaux des 10 commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale recommande que le choix des animateurs de ces commissions se fasse en tenant compte de leurs profils et compétences. Le directeur pays adjoint de l'Oxfam, Raphaël Mbouyi, est l'invité de ce journal. L'ONG internationale a lancé ce vendredi à Kinshasa un programme de transformation du système humanitaire à travers le leadership humanitaire local. Bonjour à tous, nous commençons par le Nord Kivu où 48 000 personnes sont ciblées pour la première phase de la campagne de vaccination contre la monkeypox lancée hier à Goma. C'est le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui a procédé au lancement officiel de cette campagne devant les autorités sanitaires de la province. Les activités de vaccination concernent d'abord trois zones de santé les plus touchées de la province, Goma, Karisimbi et Nyiragongo. Elles vont se dérouler du lundi 7 au jeudi 10 octobre courant. Denise Loukesso pour les détails.
Pour la conseillère du gouverneur en charge des santé, 14 zones de santé sur les 34 qui comptent la province sont déjà touchées par la Mpox. Les risques restent donc potentiellement élevés au Nord Kivu qui a enregistré jusqu'à ce jour 369 cas confirmés dont 2 décès. Les zones de santé de Goma, Karisimbi et celle de Nyiragongo constituent l'épicentre de l'épidémie.
Les taux de mortalité étant de 5 à 25% avec une moyenne de 10%. Cette maladie mérite donc une attention particulière de tout un chacun et nécessite l'engagement de tous les secteurs sociaux pour une réponse efficace concertée. Faisons-nous vacciner, respectons les mesures d'hygiène et nous contribuerons sûrement à rompre la chaîne de transmission.
Notons que 2 doses seront administrées chez les adultes et 1 dose chez les enfants de moins de 18 ans. Cette première phase va aller du 7 au 10 octobre prochain, soit 3 jours. Cette première phase concerne d'abord les personnes prioritaires, les personnes de santé, les déplacés de guerre, les bouchers, les professionnels des sexes, les agents au point d'entrée et de contrôle et les vétérinaires, pour ne citer que celles-ci. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Toujours en Nord Kivu, le gouvernement congolais a délégué à Goma la ministre des Affaires sociales. C'est pour compatir avec les familles concernées par le naufrage du bateau Merveille de Dieu sur le lac Kivu et les assister. Nathalie Aziza Mounana dit vouloir évaluer les dégâts pour apporter d'abord des solutions d'urgence. Accompagnée du conseiller spécial de la première ministre et des gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu, la délégation s'est rendue au port de Kituku, à proximité du lieu du drame, pour exprimer les condoléances aux familles touchées qui continuent à affluer vers ces lieux pour rechercher leurs proches encore disparus. Denise Loukesso.
Pour Nathalie Aziza Mounana, cette visite témoigne de la volonté des autorités de répondre aux besoins urgents des victimes et de leur apporter un soutien moral et matériel dans cette épreuve. S'adressant aux membres des familles sur place à Kituku, la ministre nationale des Affaires sociales et humanitaires a assuré que les plongeurs seraient rapidement dépêchés pour récupérer les corps restés dans les eaux du lac Kivu. Elle a également rassuré aux familles que les soins des rescapés seraient pris en charge et que les corps des victimes seraient traités avec dignité.
Nous sommes en train d'évaluer d'abord pour voir, nous, gouvernement, comment sortir nos frères qui sont sous l'eau. Quels moyens que nous allons utiliser? Nous n'allons pas pleurer les gens qui nous ne voyons pas. J'ai pris et proposé des dispositions au ministère des Transports et des Sécurités pour voir quelles sociétés qui peuvent nous aider. Il y a la société Shani Metal et les services spécialisés qui vont venir de Kinshasa. Je me bats pour qu'ils arrivent même aujourd'hui. Les sociétés qui ont la logistique pour plonger très loin pour sortir ceux qui sont coincés dans les bateaux. Autre chose, les survivants et les familles qui sont restées, c'est ça, affaire sociale. Nous allons voir comment les assister. La délégation a visité les rescapés à l'hôpital Keshero pour s'assurer qu'ils recevaient des soins appropriés. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Contribuer dans la solution de la crise dans l'est du pays, c'est l'une des priorités de la coopération franco-congolaise. Affirmation de Rémi Maréchaux, ambassadeur de la France à RDC, en séjour à Bukavu, Sud Kivu, ce week-end. Après avoir fait quelques rencontres au Sud Kivu et Nord Kivu avec des acteurs sociopolitiques, ce dernier dit s'être fait sa propre idée pour une bonne analyse de la situation de l'est et de la solution à y apporter. Il le dit au micro de Rachel Kessembango.
Je suis arrivé à Kinshasa il y a simplement un mois. Avant, j'étais ambassadeur en Éthiopie. Et la principale priorité de mon gouvernement dans les relations avec la RDC aujourd'hui, c'est de contribuer à une solution de la crise dans l'Est. Et pour moi, si je veux contribuer activement, efficacement, il fallait que je vienne très vite dans l'Est pour rencontrer les acteurs et comprendre quelle est leur analyse de la situation, quelle est leur perception de la solution possible. Donc j'ai rencontré les acteurs de la société civile au nord et au sud Kivu, j'ai rencontré les autorités politiques, les autorités administratives. Ce matin j'ai vu l'évêque de Bukavu. Je multiplie les rencontres pour comprendre ce que les populations attendent, ça on le sait. C'est d'abord la paix, tout le monde est fatigué de cette guerre, mais surtout comprendre comment on peut contribuer efficacement à mettre un terme à ces violences.
La plénière de l'Assemblée nationale a entériné hier les groupes parlementaires et a statué sur la répartition des postes au sein des bureaux des 10 commissions permanentes que doit compter cette chambre basse du Parlement. L'UDPS, forte de 150 députés, prend les 4 commissions stratégiques en plus du Conseil de Sages, laissant aux autres groupes une commission chacun. Et l'opposition parlementaire prend la commission des droits de l'homme. À propos des animateurs de ces commissions, le président de l'Assemblée nationale recommande que le choix de ces derniers tiennent compte de leur profil et de leurs compétences. Michel Kifindangoy.
Après la présentation des 21 groupes parlementaires constitués conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la plénière a statué sur la composition des bureaux des commissions permanentes. Le rapporteur Jacques Joly donne ici l'économie du tableau des répartitions des postes.
L'UDPS prendrait PAJ, EPOFI, Défense et Sécurité, Genre et Famille et Comité des Sages. AB, la socioculturelle, relations extérieures, FDCA, UNC, environnement, MLC, aménagement du territoire, AAP, code, suivi, évaluation. Ensemble, droit d'homme.
Le président de l'Assemblée nationale insiste sur le profil des députés qui seront envoyés à la tête de chaque commission. Vital Kamere.
Quand vous allez choisir vos présidents de commission, quand vous allez affecter les gens dans les différentes commissions techniques, tenez compte du profil. Il ne faut pas envoyer un architecte pour aller présider la PH. Si le président lui-même ne comprend pas la matière, il va diriger la commission.
Avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a déploré le drame humanitaire causé par de multiples naufrages et accidents de circulation. Vital Kamerhe a aussi regretté le silence de la communauté internationale face à la crise sécuritaire en RDC.
À Kinshasa, la journée mondiale des enseignants hier 5 octobre a été célébrée dans la méditation des enseignants du secteur public réunis au sein de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont profité de cette occasion pour interpeller le gouvernement à valoriser leur métier. Certains ont même menacé de saisir la justice contre l'État congolais à cause de son indifférence vis-à-vis de leur misère. Un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Chansons révolutionnaires, danses, cris de colère, les enseignants ont tout mis en contribution au cours de cette journée pour interpeller une fois de plus le gouvernement à améliorer leurs conditions socio-professionnelles. Ils ont tout de même salué les thèmes retenus au niveau mondial, à savoir valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social. Ces professionnels de la CRE ont estimé que ces thèmes coïncident avec les requêtes de voir le gouvernement leur payer des salaires décents. Certains ont même menacé de saisir les instances judiciaires pour dénoncer ce qu'ils qualifient de l'irresponsabilité de l'État congolais, comme indique l'un d'eux.
Nous sommes le premier pays qui paye très 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 mal le gens. C'est pourquoi je dis, nous allons cotiser $10 dans toute la République. Nous allons accuser l'État congolais. Si vous ne donnez pas à manger à votre enfant, c'est que vous le tuez.
Pour sa part, la coordonnatrice du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID a invité toute la société civile à soutenir les revendications des enseignants.
C'est la société civile qui doit se mettre ensemble pour accompagner les enseignants. Mais l'Église aussi est dedans.
Des enseignants ont par ailleurs dénoncé des menaces et intimidations de la part de leurs chefs hiérarchiques au niveau des écoles.
La persistance de la grève des enseignants constitue un danger pour l'avenir de la nation en termes de relève et de succession responsable. C'est en ces termes que le comité des sages du cadre de concertation de la société civile du Congo central réagit à l'occasion de la journée internationale de l'enseignant célébrée hier. Son président Fidèle Mwanda Mikiama appelle le gouvernement à la conscience sociale et lui demande de répondre urgemment aux revendications des enseignants. Il est au micro de Nana Plurich Mambo.
4 semaines sans fréquentation scolaire de nos écoliers, écolières, élèves depuis la rentrée scolaire en cours. Gouvernants comme politiques semblent insensibles à cette situation scabreuse. Les enfants vont dans les écoles sans apprendre. C'est l'avenir de la nation qui est en danger en termes de relève et succession responsable, car l'éducation est un pilier majeur. Une nation qui prépare sa prospérité à tous égards et sa relève. Nous exhortons donc les gouvernements à la conscience sociale en vue de résoudre les problèmes cruciaux posés par les enseignants pour que nos élèves, nos enfants, en d'autres termes, commencent de manière effective l'année scolaire. Ça urge.
Une partie de la ville de Likasi dans le Haut-Katanga est dans le noir depuis environ 2 mois. Cette situation est causée par le vol des câbles. Conséquence, plusieurs structures dont l'hôpital général de référence d'Ako ont du mal à bien fonctionner. D'autres détails avec Dr Hugues Kiloufia, médecin directeur de cet hôpital, joint par Jean Gandou.
Nous éprouvons des difficultés vraiment par manque d'électricité. La SNEL avait trouvé une solution pour nous connecter à la ligne Kakontwe qui dessert GCK et les autres mines qui sont de ce côté-là. Nous connaissons coupure intempestive. Alors par rapport à ça, nous éprouvons des difficultés dans le fonctionnement de l'hôpital. La morgue, comme vous le savez, c'est une morgue qui dessert toute la ville de Likasi, comme c'est un hôpital de l'État. Avec ces coupures intempestives du courant, on ne sait pas bien conserver les cadavres. Ça, c'est une grande difficulté. Du côté de la maternité néonate, avec l'élevage des prématurés, ça pose toujours problème. La stérilisation du matériel du bloc opératoire et certains appareils de réanimation, on ne sait pas les faire tourner pour une meilleure prise en charge. Nous avons quand même un groupe électrogène par rapport aux pistes des solutions. Un groupe électrogène qui ne fonctionne pas parce que on a connu une panne. Il y a un technicien qui travaille dessus, mais il n'a pas encore remis le groupe en fonction.
Le responsable de la SNEL, Ali Kassi, confirme que cette situation est due au vol des câbles souterrains moyenne tension. Cependant, indique-t-il, compte tenu du déficit de l'énergie électrique, la ligne sur laquelle l'hôpital a été branché connaît un système de délestage. Les travaux sont en cours sur la ligne endommagée et la situation pourra être rétablie ce week-end, a-t-il rassuré. Poursuite de notre série de reportages sur les parkings publics à travers certaines villes du pays. Cette fois-ci, nous sommes dans la ville de Kinshasa, dans la capitale congolaise. Avec l'augmentation du nombre d'engins roulants, il devient difficile de trouver où garer son véhicule. Jusqu'ici, il n'existe pas de parking public à proprement parler. Dans la commune de la Gombe, par exemple, les véhicules sont stationnés le long du boulevard du 30 juin et sur le trottoir, ce qui crée des embouteillages. John Chibouaboua nous décrit la situation.
J'ai vu tout le monde parquer, hein. Je crois que je vais mettre là-bas.
C'est dans cette ambiance que la plupart des conducteurs se retrouvent au quotidien. Victoire, Pont Mandela, Gare Centrale ou Rond-Point Gaba, pour ne citer que ces lieux. Il est presque impossible de trouver un endroit où parquer. Si la débrouille, ces conducteurs témoignent.
Je suis venu en ville et je devrais chercher quelque chose. Connaissant que parquer, ça devient un problème, je vais laisser ma jupe au niveau de Stade des Martyrs.
Parking public ou pas, la police tente de remettre de l'ordre, mais cette recette est mal digérée par les Kinois.
On ne sait pas avec les roulages qui ne comprennent absolument rien. Vous parquez à n'importe quel endroit, on vient vous arrêter. Des fois même, on prend votre véhicule pour partir avec. Mais l'État congolais devrait d'abord commencer par nous montrer là où on doit stationner. C'est-à-dire que construire des parkings officiels. Quand vous arrivez, vous allez parquer là-bas. Mais ici, Kinshasa, on ne comprend absolument rien.
Il faut cependant reconnaître qu'il existe des endroits qui ne sont pas des parkings publics, mais ont été aménagés pour abriter des véhicules.
Nous sommes le Congo Parking Service. Nous gérons le parking. Nous travaillons avec l'hôtel de la ville. Bon, au moins, il y a plus ou moins 20 véhicules. Hein.
À côté de cela, il existe plusieurs initiatives privées tendant à créer des espaces devant servir de parking. Mais à l'heure actuelle, elles sont dans un état de balbutiement.
Actualité internationale. En Afrique du Sud, des manifestants ont défilé hier au Cap en signe de solidarité avec les Palestiniens près d'un an après le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Cet événement s'inscrit dans un contexte où des voix internationales expriment leur soutien aux Palestiniens, dénonçant ce qu'elles perçoivent comme une situation d'oppression. Des marches similaires étaient également prévues dans d'autres villes sud-africaines, dont Johannesburg et Durban, renforçant ainsi la solidarité nationale avec la cause palestinienne.
L'invité.
L'ONG internationale Oxfam a lancé le vendredi à Kinshasa un programme de transformation du système humanitaire au travers du leadership humanitaire local. Ce nouveau programme vise l'amélioration de la qualité des fonds humanitaires gérés par les acteurs humanitaires locaux et nationaux. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 2 millions de dollars américains et sa mise en œuvre s'étale sur 3 ans, soit de septembre 2024 à mars 2028. Le directeur pays adjoint de l'Oxfam, Raphaël Mbouy, évoque notamment la question de la localisation de l'aide de ce programme. Il est l'invité de ce journal et il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Monsieur le directeur pays adjoint de l'Oxfam, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous venons d'assister à la présentation du programme de transformation du système humanitaire de l'Oxfam, bien entendu. Qu'est-ce que l'opinion nationale et internationale peut retenir de ce programme?
Ok, il est important que l'opinion retienne de ce programme que Oxfam est dans ce processus depuis plus de 5 ans pour la promotion de la localisation de l'aide. Et donc, et dans le programme de la localisation de l'aide, et que ce processus que nous avons entamé aujourd'hui nous permettrait de rendre de plus en plus le processus de la localisation effectif en République démocratique du Congo en donnant plus d'opportunités, plus de responsabilités aux acteurs humanitaires locaux, aux organisations de la société civile nationale et locale de prendre la gestion de l'aide en République démocratique du Congo.
Vous venez de parler de la localisation, mais dans la salle, il y a eu une certaine crainte qui a été exprimée. Comment est-ce que vous comptez dissiper cette crainte en ce qui concerne la localisation des acteurs locaux dans la mise en œuvre de ce programme?
Vous savez, c'est un processus, c'est un nouveau processus et les craintes sont normales dans un processus pareil parce que chacun veut voir le processus soit aller vite dans un rythme que ils auraient souhaité voir le processus évoluer. Mais je pense que nous pouvons que les appeler à faire confiance au processus. Parce que la localisation elle-même, c'est un processus. C'est pas un fait. Donc, c'est dans la durée, dans le temps, et c'est une marche qui évolue étape par étape. Il n'y a qu'à faire confiance au processus.
Justement, ce programme vise 3 provinces du pays, les 2 Kivu et l'Ituri. Comment expliquer ce choix alors que le pays compte 26 provinces?
Merci beaucoup. Les pays comptent effectivement 26 provinces, mais comme vous constaterez, ces 3 provinces sont les provinces les plus affectées par la problématique de l'aide humanitaire. Donc, il est donc normal que ce processus commence à évoluer dans cette zone-là. Si vous considérez même le nombre des acteurs de la société civile, qui interviennent dans les domaines d'urgence, c'est dans ces provinces-là. C'est parce que c'est là où il y a la grande problématique d'urgence en ce qui concerne l'aide humanitaire en République démocratique du Congo.
Monsieur le directeur adjoint, pour terminer, un mot sur la collaboration, le partenariat avec les CONAFOD.
Oui, CONAFOD est un partenaire d'Oxfam de longue date. Oxfam a même participé à la construction de CONAFOD. Et c'est une organisation qui a montré beaucoup de dynamisme. En 2 ans, cette organisation a pu s'hisser à un certain niveau comme un consortium de plusieurs organisations humanitaires nationales et locales. Et donc, c'est vraiment un partenaire de mise en œuvre que Oxfam accompagne dans la prise en charge de ce processus de l'effectivité de la mise en œuvre de la localisation à la République démocratique du Congo.
Oui, monsieur le directeur adjoint, je vous remercie et bon vent à votre programme.
Merci beaucoup à vous également et nous comptons sur vous pour la sensibilisation sur l'importance de la localisation, mais aussi la qualité de cela par les acteurs humanitaires.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Au micro, c'était Noëlla Luzitu Kabambi, à la mise en onde de Pierre Diassinois et dans une coordination de Jacques-Yves Molima. Restez à l'écoute du programme de Radio Okapi.